Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast pour la deuxième saison. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. Cette année, le podcast élargit sa palette de professionnels suite à vos demandes et j'espère que cela va vous plaire. Il y aura donc certains mois d'autres métiers mis en avant. De plus, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux et les plateformes d'écoute. Toutefois, les témoignages de patients sont toujours présents. Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Dans cette interview, j'interroge Raphaël, infirmier, travaillant dans un premier temps en oncologie, puis en hôpital à domicile pour actuellement être en soins palliatifs. L'accompagnement des patients les plus jeunes aux plus âgés vers la fin de vie est quelque chose qui le suit depuis le début de sa carrière. Il revient avec nous sur son parcours.
Raphaël, je suis infirmier depuis 2007, donc ça va faire bientôt 16 ans que je fais ce métier. À la base, j'ai plutôt une formation scientifique, parce que j'ai commencé, j'avais des études plutôt dans les mathématiques, que j'ai fait un degré de licence. Après, j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques, technologie, transformation des matières plastiques. Voilà, donc assez rapidement, c'est un milieu qui ne m'a pas plu. Donc du coup, j'ai complètement arrêté. Et après, je suis plutôt passé dans un milieu de commerce. Donc j'ai travaillé au sein de la société McDonald's, où j'ai eu des postes de responsabilité. Et puis j'ai aussi travaillé dans les fruits et légumes, dans une chaîne de légumes, de fruits et légumes sur Lyon. Pareil, j'avais des activités, on va dire, de manager, quoi. Et en fait, assez rapidement, de ces expériences, il me manquait quelque chose. Parce que finalement, j'étais dans le milieu du commerce, donc plutôt des relations commerciales. Donc j'avais des relations, bien évidemment, avec les clients. Donc du coup, je ne peux pas dire que j'étais isolé ou qu'avec des chiffres, quoi. Mais finalement, il me manquait quelque chose. Et parallèlement, quand j'étais sur Lyon, j'étais chez les Petits Frères des Pauvres. Je ne sais pas si tu connais, c'est une association qui s'occupe notamment des personnes âgées, dépendantes ou semi-dépendantes, et en tout cas en situation d'isolement, et puis aussi des personnes en situation de précarité. Et c'est vrai que j'ai participé pendant quasiment 3 ans à l'activité de cette association. Et l'un des pôles d'activité, c'était organiser des séjours de vacances avec des personnes âgées, donc comme du coup dépendantes, semi-dépendantes, donc il y avait besoin de soins, de soins infirmiers notamment, et du coup il y avait soit des bénévoles elles-mêmes infirmières de profession, donc du coup qui participaient au séjour, ou alors on faisait intervenir des infirmières libérales qui venaient faire les soins sur le séjour. Et c'est vrai que c'est là où finalement j'ai été pour la première fois confronté au métier, puisque du coup je donnais un coup de main pour changer un drap, pour tenir quelqu'un sous mobilisation, etc. Et finalement je me suis dit ça a l'air plutôt pas mal, je me sentais plutôt pas mal dans ce métier, quoi. Et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, j'étais sur Lyon, et quand je suis arrivé sur Grenoble, donc du coup j'ai démissionné de mon poste dans les fruits et légumes, et là je me suis dit c'est le moment, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc donc j'ai hésité un peu, infirmier, éducateur spé. Finalement je suis parti sur infirmier par rapport à mon expérience sur les Petits Frères des Pauvres. Et du coup, j'ai préparé le concours via le CNED, passé le concours sur les écoles de Grenoble, c'est comme ça que l'expérience a commencé. Et c'est vrai qu'au début, pour expliquer mon arrivée en soins palliatifs, quand j'ai commencé cette formation, forcément ayant une petite expérience en gériatrie, c'était un milieu qui me plaisait bien, je trouvais les personnes très attachantes, et j'avais un peu finalement envie d'évoluer plutôt là-bas. Ou alors plutôt le côté psy, parce que j'avais un côté un peu torturé, donc du coup je me disais ça m'intéressait, je me disais pourquoi pas. Et puis finalement c'est vraiment à travers les différents stages que j'ai fait, où finalement j'ai fait beaucoup de stages en cancérologie, notamment en hématologie, et c'est là que je me suis dit c'est plutôt pas mal, parce que finalement c'est à la fois un côté très technique, mais finalement un côté où la relation est très importante, et ça j'ai été un peu le fil directeur de mon option de carrière. Donc finalement je me suis dit pourquoi pas. Donc diplômé en 2007, j'ai eu la chance d'intégrer l'unité d'hématologie. Donc j'ai d'abord commencé sur l'hématologie clinique, puis après j'ai intégré l'unité de greffe de moelle osseuse, donc c'est les soins intensifs d'hématologie. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans à peu près. Après je suis parti sur l'hospitalisation à domicile, donc j'en ai fait pendant 6 ans. Et après, ça fait 3 ans, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai intégré l'unité de soins palliatifs. Et c'est vrai que finalement, il y a une espèce de fil directeur, parce que très rapidement, cancérologie, forcément, situation difficile, patient, âge très divers, mais finalement, quand même cette grosse problématique de la fin de vie qui est souvent là. En HAD, 80% des patients avaient des cancers, donc du coup, pareil, avec beaucoup d'accompagnement de fin de vie à domicile, etc. Donc finalement, c'est un peu tout naturellement que les soins palliatifs sont apparus, parce que finalement, je me suis dit, ouais, comment faire pour accompagner ces personnes, des situations très complexes, beaucoup de symptômes d'inconfort, une perturbation de la vie sociale, le côté spirituel, voilà. Et je pense que j'avais besoin, finalement, par rapport à tous les acquis que j'avais pu avoir, que ce soit en hématologie et sur le station domicile, me dire, ben voilà, il faut que je formalise tout ça, il faut que je cadre tout ça et que je progresse sur tout ça, parce que ça, c'était vraiment une place qui me plaisait bien, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je suis arrivé aux soins palliatifs. Et pour le coup, depuis, j'y suis et c'est vraiment très, très bien. Alors c'est vrai qu'en hématologie, donc le gros avantage, c'est qu'effectivement toutes les personnes ne mourraient pas. Donc déjà c'est quand même un point important, parce que finalement, alors je ne me rappelle pas des pourcentages, mais finalement il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans un processus très curatif et avec du coup la possibilité de s'en sortir. Mais c'est vrai que finalement, pour toutes les situations donc, de fin de vie, ou en tout cas sur les personnes qui avaient des symptômes d'inconfort, c'était assez compliqué parce que je dirais, la problématique de l'oncodog à mon sens, mais bon ça peut être évolué depuis, hein, je n'y suis plus, c'est finalement c'est des maladies qu'on guérit très facilement, dans le sens où bah, y a la chimiothérapie, ça marche très bien, la greffe ça marche très bien, donc du coup on peut effectivement guérir les gens, sauf que souvent les gens meurent des conséquences du traitement. Et souvent, lorsque ces conséquences s'emballent, on n'arrive pas forcément à les contrôler. Et du coup, c'est là que le décès arrive. Donc finalement, je pense qu'il y avait un côté peut-être au niveau philosophique, tu vois, sur cette espèce de notion d'échec chez l'hématologue, alors que finalement, il n'y avait pas d'échec, parce que la maladie était guérie. Donc c'est pourquoi le patient venait, il était guéri, et finalement, il mourait. J'ai vraiment énormément eu la sensation de galérer à l'époque. Parce que avoir toujours cette espèce de sentiment, tu vois, de devoir négocier pour pouvoir mettre des choses en place. J'avais quand même l'impression que tant qu'on restait sur le cadre de la maladie, les soins étaient faits, les traitements étaient adaptés, mais dès que finalement on passait dans cette espèce de situation de fin de vie, plus compliqué. Et moi, j'avais quand même l'impression en fait que les gens souffraient. On essayait de faire au mieux. On y arrivait parfois, on n'y arrivait parfois pas, mais j'avais quand même toujours cette espèce de sentiment que les gens souffraient. Quand je suis parti d'hématologie, alors je ne suis pas parti pour ça, clairement, c'est plus parce qu'effectivement j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour, que j'avais envie d'évoluer, donc ce n'est pas du tout ça qui m'a fait partir, mais quand même, c'était quelque chose qui restait bien en place. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur l'hospitalisation à domicile, sachant qu'ils faisaient déjà du soin palliatif au domicile, qu'il y avait des soignants qui étaient formés, qu'il y avait le DU soin palliatif, on sentait quand même qu'il y avait une approche, une philosophie soin palliatif qui était beaucoup plus instaurée. Et du coup, pour la première fois, j'ai vraiment eu le sensation que les soins palliatifs étaient vraiment intégrés dans la prise en soin de la personne et que du coup, on était vraiment déjà dans cette recherche, tu vois, de la recherche de petites choses, de ressources qui permettent finalement d'améliorer la qualité de vie de la personne. Mais finalement, pas aussi formalisé, parce qu'en même temps, c'est une vraie discipline, hein, les soins palliatifs, il y a des médecins palliatologues, donc ils essaient d'être formés, etc. Et donc finalement, pas aussi, on va dire, peut-être bien formalisé, bien cadré qu'au niveau, on va dire, d'une unité de soins palliatifs. Mais en tout cas, il y avait déjà ça. Et je pense que quand je suis arrivé sur les soins palliatifs, d'un côté, j'avais des acquis par rapport à ce que j'avais pu connaître, expérimenter, mais ça a vraiment été la découverte absolue de tout ce qu'on pouvait faire en fait. C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses pour justement améliorer la qualité de vie de la personne, quel que soit le stade de la maladie. Parce que bien évidemment, soins palliatifs, c'est pas que fin de vie. Je vais pas refaire la définition, mais souvent, lorsque les personnes sont palliatifs, il peut avoir encore une médiane de vie de 3, 5 ans, enfin, j'en sais rien. Et c'est vrai que du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps pour pouvoir justement améliorer la qualité de vie de la personne et surtout la qualité de vie acceptable pour la personne. C'est pas nous qui décidons, tiens, ça on dit que ça c'est bien pour lui, c'est toujours centré sur la personne et qu'est-ce que cette personne veut vraiment. Et l'idée de soins palliatifs, c'est d'adapter le projet pour vraiment répondre aux besoins exprimés de la personne. Alors la famille, carrément en partie prenante, et pour nous c'est clairement une ressource. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les soins palliatifs, on est sur la gestion, on va dire, des symptômes d'inconfort, donc évidemment les principaux, on va dire plutôt au niveau physique, tout ce qui est un peu de la douleur, plutôt au niveau psychique, tout ce qui est un peu évidemment l'anxiété, l'angoisse, la peur de plein de choses, mais il y a aussi un côté social finalement. Et nous, on sait très bien que le social, enfin une personne n'est pas qu'une maladie ou qu'une, on va dire, qu'une douleur ou qu'une anxiété, c'est aussi un, on va dire, une espèce de... Ouais, je dirais que c'est une enveloppe un peu multicouche, comme un oignon, et en tout cas la famille en fait partie. Et c'est vrai que souvent dans ces situations palliatives, mais même finalement de maladie, il y a vraiment une perturbation au niveau social, au niveau de l'environnement du patient, que ce soit au niveau, je sais pas, les conjoints, les enfants, les parents, enfin, les amis, voilà, le travail. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment une prise en compte de la famille. De façon très concrète, sur l'unité, comment ça se passe? Déjà, nous, on a ce qu'on appelle un entretien famille. Institué, donc généralement ça se fait, on va dire, une dizaine de jours ou un peu plus tôt, ça dépend de la situation, donc lorsqu'un patient est arrivé. Et le but en fait de cet entretien famille, donc évidemment le patient est au courant qu'on va recevoir ses proches, ça se fait pas dans son dos, mais en tout cas le but c'est vraiment déjà de se présenter. Et c'est un entretien du coup qui est pluridisciplinaire, où il y a médecin, infirmier, aide-soignant, kiné, assistante sociale, psychologue et plus ou moins cadre de santé, parfois des étudiants, voilà. Donc déjà, premier aspect, c'est présenter l'équipe, le fonctionnement d'équipe. Le deuxième temps de cette entretien famille, c'est vraiment, ben voilà, où on en est. Votre proche est arrivé chez nous et qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'il est là. Et aussi souvent, c'est un temps où finalement, les choses sont posées. Parce que, en règle générale, les patients qui passent par chez nous, ils ont vraiment un très très gros vécu, on va dire, de la maladie, un très très gros vécu hospitalier. Ils sont passés par plusieurs services, il y a des informations qui ont été données, pas données, comprises, pas comprises. Et c'est vrai que nous, le but, c'est vraiment de se dire à ce jour, voilà où on en est, voilà ce que votre proche vit, voilà ce qu'il a, pour vraiment savoir de quoi on parle. Et souvent, c'est vrai que des fois, ça peut être même très, très, très dur hein, en termes de ressenti, parce que finalement, on dit les choses et on dit vraiment toutes les choses. Et lorsque c'est grave, on dit que c'est grave. Lorsqu'il y a une fin de vie qui se profile, on dit qu'il y a une fin de vie. Mais bien évidemment, en accompagnant, en expliquant, on balance pas juste l'information et puis après, on s'en va, bien sûr. Mais toi, il y a vraiment ce côté-là. Et c'est vrai que du coup, c'est un moment qui est très fort parce que souvent, les gens, les proches, ils ont ce côté où ils savaient des choses, où ils se doutaient de choses, etc. Et là, en fait, on leur dit vraiment, et là, pour le coup, ils ont vraiment l'impression d'avoir une information qui est loyale, adaptée à leur niveau de compréhension, bien sûr. Et puis, c'est aussi un moment où, finalement, on définit un projet. Parce que chez nous, lorsque les personnes viennent chez nous, il y a toujours un projet. Et même pour des gens qui ont une, on va dire, une médiane de vie, de survie très courte, on est toujours dans cette histoire de projet. Parce que finalement, qu'est-ce que... Toujours dans ce côté finalement de travailler sur la qualité de vie, et la vie, tant qu'elle reste pour nous, elle est importante. Donc on est toujours, tu vois, dans définir le projet, accepte toujours pareil, qu'il soit de la volonté du patient, validé par les proches, et qui du coup accepte pour le patient. Et du coup, tu vois, vraiment, voilà, donc on définit ensemble un projet. Alors des fois c'est très con, c'est j'ai envie d'aller là, ou j'en sais rien, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de manger ça, enfin souvent j'en sais rien. Mais en tout cas, on est vraiment dans une espèce de projet. Et puis c'est aussi un temps en fait pour les familles, où du coup, ils peuvent nous poser leurs questions. On essaie d'identifier les besoins qu'ils peuvent avoir, les ressources à mettre en place. Enfin, c'est quand même un truc qui est quand même très très costaud, qui est vraiment formalisé. Et ça, c'est au moins une fois. Et ça peut être aussi reproductible en fonction de l'évolution du patient. Surtout que chez nous, il y a des personnes qui peuvent faire plusieurs séjours. Ils viennent pour un stade d'évolution de la maladie, ils viennent une première fois pour une adaptation de traitement. Et puis finalement, il y a une complication, des métastases qui sont apparues, donc des complications à gérer. Et puis finalement, on est sur le mode fin de vie, donc du coup, ils reviennent encore chez nous. Donc finalement, tu vois, il peut y avoir plusieurs trucs. Donc c'est pour ça que cet entretien famille, il est fait à chaque fois, et puis aussi il est fait plusieurs fois au cours du séjour. Et puis on a plein de temps informel, où finalement, médecins et paramédicaux sont assez disponibles, c'est l'activité du service, l'organisation du service qui le permet, et des fois ils nous arrivent aussi de faire des entretiens, on va dire, express. C'était pas prévu, mais là on sent qu'il y a besoin de recevoir, etc. Les gens nous sollicitent et tout de suite on se rend disponible pour les recevoir, et là du coup on est beaucoup plus spécifique sur leur demande, parce que là forcément il y a une demande précise, donc là on refait pas, on va dire, tout le corpus, mais en tout cas on répond à leurs besoins. Et puis après, sur les soins, on intègre les personnes. Donc si par exemple ils ont l'habitude, ils veulent que ce soit leur proche qui fasse par exemple la toilette, ce genre de choses, on le fait. On intègre les gens par exemple par rapport au repas, s'ils ont envie d'amener quelque chose, de manger avec leur proche, etc. On est facilitateur sur les permissions, sur les sorties, aller manger au restaurant ensemble, enfin j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et puis se montrer aussi disponible. Et puis dernier pôle, c'est que c'est important, mais il y a la psychologue aussi, qui est là aussi pour recevoir la famille, les conjoints, les enfants, les parents, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment aussi ce temps d'accompagnement qui est proposé aussi par nos psychologues. C'est assez dense, quoi. Mais en tout cas, il faut vraiment se dire que pour nous, la famille est vraiment intégrée aux patients. Et d'ailleurs, même, je pense qu'il y a aussi parfois des gens qui sont complètement désocialisés ou qui sont perdus de vue leur famille, etc. On n'est pas dans une recherche absolue de recréer des liens, de retisser des liens, mais on a quand même ce souci d'essayer de réorganiser un environnement autour du patient, si c'est possible, s'il le souhaite, bien évidemment, c'est quand même important, parce que pour nous, c'est vraiment une ressource qui est importante, quoi. Et on peut pas, en tout cas, on ne peut pas faire de soins palliatifs en étant centré uniquement sur le patient. Il faut vraiment avoir cette visibilité sur ce qu'est le patient et surtout sur avec qui il vit. Enfin, les interactions, quoi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on fait par exemple assez rapidement ce qu'on appelle un génosociogramme, qui nous permet vraiment d'identifier, monsieur, madame, marié avec un tel, ses parents, combien d'enfants, combien de petits-enfants, enfin, pour essayer vraiment d'avoir une espèce de connaissance la plus fine des interactions familiales. Et comme ça, tu vois, lorsque finalement, sur l'entretien, on entend parler de lui, ah ben oui, effectivement, on se rappelle, il a un frère, il a une sœur, il a des enfants. Il y a vraiment ce souci, tu vois, quand même de meilleure connaissance du patient, parce que ça nous aide vraiment pour pouvoir l'accompagner au mieux. À mon sens, on a une loi qui est très bien. Donc déjà, je ne vais pas refaire tout l'historique des soins palliatifs, mais ça fait quand même un moment que les choses se mettent en place et finalement évoluent. On a quand même deux lois fortes avec celle de 2005 et puis finalement la révision 2016, la loi Leonetti-Claeys. Et à mon sens, avant de parler d'euthanasie, voyons déjà ce qu'il y a dans cette loi. Est-ce que les personnes la connaissent suffisamment? Parce qu'on dit les personnes à la fois tant au niveau du grand public que déjà des soignants. Voilà. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour la formation des équipes? Finalement, nous, bien évidemment, équipe de soins palliatifs, formés, plus que formés, donc connaissance de ce qui se fait, ce qui peut se faire, de ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire, enfin, etc. Mais on se rend bien compte, et ça c'est mon activité avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui me permet de le dire, il y a vraiment un grand flou, finalement, où il y a certaines molécules qui sont très utilisées parce que c'est un peu la dimension magique. Je parle notamment de la morphine, du midazolam, voilà. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place avant d'avoir recours à ces molécules. Dans quel cadre on les utilise? Enfin, on sent qu'il y a vraiment un très très gros besoin de formation. On sait très bien que dans une formation de médecin, le versant sciences humaines, versant soins palliatifs, c'est pas le module le plus développé. Je vais pas manquer de respect à mes collègues médecins, parce que je ne sais pas combien d'heures dure la formation, mais je sais que c'est vraiment, en regard de leur formation globale, c'est très limité. Donc déjà voilà, au niveau paramédical, pareil, maintenant dans les instituts de formation sur infirmiers, il y a vraiment un gros module maintenant avec beaucoup de choses, mais finalement, on sait très bien que c'est un module pris dans d'autres modules, et après, une fois qu'on débute, pas forcément de nouveau sensibilisé, en tout cas, on ne met pas forcément en œuvre ce qu'on a pu voir en tant qu'étudiant. Donc tu vois, on sent qu'il y a vraiment ce besoin de formation. Je pense qu'il y a une grande disparité aussi au niveau géographique. Il y a des territoires qui sont très bien dotés, où il y a unités de soins palliatifs, où il y a des équipes mobiles mises en place, mais il y a des zones blanches en France. Et donc déjà, je pense, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir développer les ressources qu'on peut au niveau des soins palliatifs, ne serait-ce qu'au niveau du territoire national. Et quand je dis territoire national, c'est aussi tout ce qui est territoire ultramarin, enfin, parce que la France, effectivement, c'est très grand. Donc tu vois, voilà, il y a vraiment cette disparité qui fait que, voilà. Je pense aussi par rapport à la loi, donc je disais les connaissances grand public, tu vois, ne serait-ce que par exemple la personne de confiance, les directives anticipées, de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut ne pas être fait, enfin toutes ces ressources-là. Je pense que c'est aussi souvent la peur de souffrir. Les gens ont peur de souffrir, donc du coup se disent non, moi je vais pas souffrir, donc là, je suis malade, il faut vite arrêter parce que. Alors qu'en fait, on se rend bien compte, on a parfois des gens qui viennent dans notre service avec des idées suicidaires ou alors une envie de dire moi je veux l'euthanasie, donc vous débrouillez, moi je veux quelque chose, etc. Souvent, on se rend compte que quand on décortique le nœud du problème, qu'on voit quels sont finalement les problèmes, quels sont les symptômes qui lui semblent le plus compliqués, le plus douloureux à gérer et qu'on arrive à mettre des choses en place qui permettent. Eh bien, en fait, de soulager ces symptômes, ah ben, t'inquiète pas que les gens, ils n'ont plus du tout envie de mourir et ils ont encore envie d'investir. Pour moi, l'euthanasie, c'est la solution facile, alors qu'en fait, non. Soins palliatifs, c'est un vrai travail d'analyse qui permet de proposer quelque chose qui est en raccord avec la volonté de la personne, les souhaits de la personne, accepté par la personne. ce serait plus déjà de développer ce qui existe, qui, je pense, est vraiment très très bien, sans faire le côté, on va dire, bisounours. Je pense qu'il y a vraiment, il y a moyen vraiment de faire des choses, mais il faut avoir les moyens, les ressources, la formation, pour pouvoir effectivement les appliquer. Et peut-être que la vision des personnes sera différente. Surtout qu'honnêtement, nous, on s'appuie sur le retour. Parce que bon, on a peu de retour de ceux qui partent, mais en tout cas, le retour de ceux qui restent. Et quand même, quand ils voient tout ce qui a pu être fait, tous les projets qui ont pu être encore portés, nous, on travaille énormément sur la notion de plaisir. C'est jusqu'au bout, avoir du plaisir, quoi. Lorsque les gens perdent un proche, donc évidemment, il y a la tristesse, il y a tout ça. Mais quand même, dans tous les mots qu'on voit, il y a toujours ce côté aussi d'avoir permis qu'ils puissent encore faire ci, ils puissent encore faire ça, ils puissent encore avoir des rêves. Parce que nous, on travaille toujours sur le rêve, en fait, parce qu'il reste 2 jours de vie que finalement, on n'a pas le droit encore d'avoir des rêves, des espoirs, des ça. On n'est pas là pour, on va dire, mettre la tête des gens sous l'eau et finir. Et c'est ça, c'est pour moi les soins palliatifs.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée.